Et pour quelques minutes, jusqu'à 13h, on réfléchit à des solutions citoyennes. C'est la France des solutions avec Raphaël Luchemin et Elisabeth Assayag. Bonjour Raphaël.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve désormais chaque samedi, juste avant 13h sur Europe 1, pour évoquer ensemble vos initiatives, celles qui créent du lien, qui rassemblent, qui ont du sens et un impact. Et vous allez voir que partout, juste à côté de chez vous peut-être, quand on cherche, eh bien, on trouve des solutions. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et c'est dans cette France des solutions qui sera à l'honneur chaque samedi avec nos invités.
Oui, nos invités, comme par exemple dans ce territoire rural isolé où une petite coopérative agricole a refusé le déclin. Bonjour Dominique Olivier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la coopérative ferme de Figeac et président du PTCE Figeacteur, c'est ça. Vous avez redonné vie à un territoire qui était en train de sombrer. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ?
J'étais au départ donc directeur d'une coopérative agricole de 8 salariés en 1983. Et aujourd'hui, sur un territoire qu'on disait au niveau agricole, plus dans la course, il y a 180 salariés sur un petit territoire de 20 km à la ronde.
Mais c'était quoi à l'origine la production locale dans votre région ?
Si on reprend l'origine, parce que les productions ont beaucoup évolué, il y avait du tabac, de la fraise, des petits fruits, avec une entreprise qui s'est installée à côté de chez nous, qui s'appelle Andros maintenant, bonne maman. Il y avait des veaux sous la mer, il y avait des châtaigniers. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué.
Et très vite, vous êtes aperçu que la mondialisation commençait à grignoter un petit peu un bout de votre territoire. Tout a changé et vous, vous avez mis en place des solutions pour tenter de faire en sorte que le monde rural reprenne sa place.
Oui, on a essayé de s'adapter en essayant de mettre en valeur les qualités de notre territoire. Mais d'un mes premiers métiers, où nous faisions de l'agro-fourniture pour nos adhérents, c'est-à-dire de l'aliment du bétail, de l'engrais, de semences, etc. En fin de compte, c'est une coopérative. C'est 650 agriculteurs aujourd'hui qui se sont groupés pour essayer de se défendre et collectivement porter un certain nombre de choses.
Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous faites le constat et aujourd'hui ? Comment ça se met en place ? Comment est-ce que vous arrivez à retisser justement ce lien entre les différents acteurs du territoire, à faire revenir les gens à ce qui s'installe finalement sur votre territoire rural.
Alors, ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine par petites touches sur 30 ans. On a saisi des opportunités, on a eu des intuitions.
C'est-à-dire ?
Une, par exemple, sur le circuit court.
Oui.
En 95, on s'est dit que dans nos magasins Gamme Vert, on vendait certainement des fleurs qui venaient de Rotterdam et des produits déco qui venaient d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, 70% de notre chiffre d'affaires, ce sont des produits de nos paysans. Aujourd'hui, c'est 30 emplois sur les circuits courts alimentaires. Par contre, on a été voir ailleurs, on a été voir au Japon ce qui se passe, ce qui est énorme là-dessus. On passe à Fribourg, on voit tout ce qui se passe sur les énergies renouvelables. Puis on s'est dit, oui, on sait produire du lait, on sait produire de la viande, mais on a du soleil, on a du vent.
Oui.
Et on a fait des coopératives de toits solaires. On a fait le plus gros projet collectif solaire français, puisqu'aujourd'hui, c'est 500 toits. Qu'on gère avec tous les agriculteurs ensemble. On a une ferme d'éoliennes avec de l'investissement participatif. Et la machine, elle se développe en permanence sur un petit territoire. On était sur 20 km de rayon, on est toujours sur 20 km de rayon. La production agricole est une, mais l'agriculture, on n'est pas là que pour produire des biens alimentaires, mais aussi pour produire de l'énergie, pour travailler sur le réchauffement climatique.
Pour redynamiser tout votre territoire.
Alors, il n'y a pas que nous. Parce qu'on a une chance, c'est que sur notre territoire, il y a aussi une autre forme de coopération qui s'est mise en place, qui s'appelle Mécanique Vallée. Mais aujourd'hui, on est passé sur Figeac, je crois, de 1500 en 10 ans emplois dans la mécanique à 2500. Et dans 5 ans, ça sera 3500. On n'a plus de chômage. On cherche des salariés.
C'est incroyable. En 2015, vous vous êtes regroupé, vous avez créé Figeacteur.
Ouais.
Se regrouper comme ça en association, l'idée, c'est de ne plus rester seul.
C'est la prise de conscience que notre matrice à tous, c'est le territoire. Et vous avez des biens privés, vous avez des biens publics, les valeurs de demain, c'est les biens communs. Si on reste dans notre filière, chambre d'agriculture, coopérative agricole, etc., on va dévitaliser les territoires. Et tout d'un coup, en allant voir les gens de l'industrie à côté, en allant voir les gens du service médico-social, eh bien on peut faire des choses ensemble que personne n'est légitime
seul.
Donc
les Figeacteurs, c'est bien ça, vous êtes regroupés en plusieurs structures locales.
C'est ça.
Vous n'êtes plus seul, mais chacun associé à l'autre peut faire quelque chose de grand.
Seul, on n'est pas légitime pour tout. Je donne un exemple. On veut faire venir des jeunes, des talents sur notre territoire. Il n'y a pas assez de places de crèche. Eh bien, à plusieurs entreprises, on a fait une crèche en 2016. Seul, je ne suis pas
légitime.
Vous
trouvez vos propres solutions. Quand je dis vous, évidemment, c'est tous ensemble.
Ensemble, je ne suis pas tout seul.
La suite, c'est quoi ?
On est sur une légumerie et la réimplantation du maraîchage. Moi, tout seul, je ne sais pas installer des maraîchers. Mmh. Mais il y a une association d'insertion qui est avec nous dans le PTCE qui va faire du maraîchage. Il y a une association pour des adultes handicapés qui va faire une légumerie et qui travaille pour la restauration collective.
Tout ça est regroupé dans les fiches d'acteurs.
Eh oui. Merci, Dominique Olivier, pour le message. Merci. Et merci d'être venu sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous. On va découvrir un espace d'échange pour les aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce sont les bistrots mémoires. À tout de suite.
Europe 1, midi 50. Jusqu'à 13h, Raphaël Duchemin, Elisabeth Assayag, La France des Solutions. Chose promise, chose due, on découvre avec elle les bistrots mémoire.
La France des Solutions, c'est tout l'été sur Europe 1, tous les samedis désormais, avec celles et ceux qui agissent pour créer des initiatives qui nous rassemblent. Elisabeth, c'est le cas des bistrots mémoire.
Eh oui, bonjour Irène Sipos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice des bistrots mémoire. Alors, c'est quoi exactement un bistrot mémoire? C'est un bistrot?
Un bistrot mémoire, en tout cas, ce sont des sessions qui réunissent des personnes.
Dans un bistrot?
C'est dans un lieu de vie normal que tout le monde peut ou pourrait fréquenter. Dans le village.
Vous avez créé un lieu classique, hein, un café, un bistrot, où là, oui. Les soignants, les aidants, les malades peuvent se rencontrer.
Alors ça, il faut d'ailleurs dire que le premier bistrot est né en 2004 sur ce concept, mais qui est resté très stable, même s'ils se sont greffés d'autres choses dessus. La première idée, qui je dirais était révolutionnaire, elle est encore, c'est que on s'est dit, mais les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, elles ont le droit, la possibilité, la capacité de dire des choses. Elles vont peut-être les dire différemment, mais elles vont les dire. Donc, c'est le lieu dans lequel cette parole peut s'exprimer librement. Oui.
Ça n'est pas venu totalement par hasard. Hein. Vous avez une expérience, il faut en parler aussi. Vous avez dirigé une maison de retraite et vous êtes médecin gériatre de formation. C'est comme ça, finalement, que vous vient l'inspiration, l'idée vraiment de ce bistrot mémoire.
Je crois que la curiosité et puis le travail avec les gens, ça nous permet aussi de voir les trous dans le tissu. À l'époque, en 2003, il faut se rappeler qu'il y avait la première loi sur les droits des malades.
Oui.
Et c'est ce qui a beaucoup révolutionné peut-être aussi le système de santé, par exemple autour des cancers. Mais les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer étaient dès l'abord considérées comme non éligibles à la parole. Et donc c'était vraiment, et ça reste, je le redis, révolutionnaire.
Alors, comment ça marche? Il se passe quoi dans ce bistrot?
Alors, déjà un déroulé classique, ça va être une réunion hebdomadaire ou tous les 15 jours. Les gens arrivent, ils partent quand ils veulent, ce sont des lieux libres, gratuits. Alors en général, ils peuvent arriver en couple. Ça nous intéresse aussi beaucoup la dynamique au sein du couple et de revaloriser chacun des deux parties du couple. On va avoir éventuellement un intervenant.
C'est autour d'un thème précis, j'imagine.
Ça peut être autour de la maladie d'Alzheimer, d'autres de médico-social. Ça peut être, par exemple, comment fonctionne la maison de retraite du coin. Mais ça peut être aussi faire un cours ou une démonstration de tai chi ou de sophrologie pour donner envie aux gens. Mais surtout, on débat. Par exemple, s'il y a une intervention sur comment annoncer le diagnostic de la maladie, eh bien, il y a des gens qui ont eu un diagnostic et qui disent ben, « moi, j'aurais préféré qu'on me le dise comme ci, comme ça ». Et même les médecins qui viennent, qui sont des experts et des gens très humains, apprennent aussi.
Il y a de l'échange, il y a vraiment un échange qui s'opère.
Oui, il peut y avoir des moments de plaisir, tout simple.
Voilà. En 5 ans,
oui.
40 bistrots, c'est ça?
Un peu plus. Alors, on a démarré donc en 2004, et puis comme on voulait aussi joindre les gens isolés. Donc, on faisait beaucoup de publicité locale, surtout dans l'Est France, par exemple. Et du coup, d'autres professionnels, parce qu'on n'avait pas du tout cette volonté de entrepreneuriale, je dirais, à l'origine. D'autres ont dit « Ah bah oui, ça, c'est vraiment ce qui manque dans le système. On va le faire. » Et du coup, on s'est retrouvés un petit peu par...
Mais qui gère? Qui gère?
Et alors, à chaque fois, ça va être un collectif qui vont gérer. Et dans le quotidien, au cours de ces réunions, on a institué qu'il faut... un certain nombre de garanties professionnelles, donc en général c'est une psychologue, et puis des bénévoles, là aussi toujours dans l'idée de faire société.
Combien de personnes en ont bénéficié aujourd'hui?
Alors, au total, année par année, je ne pourrais pas vous le confirmer, mais par exemple, l'année dernière, on considère que 8000 personnes ont pu bénéficier des bistrots mémoire.
Il y a des retours concrets?
Alors, on a évalué l'impact de notre action. On se rend compte que les objectifs qu'on poursuivait, parce qu'on les pressentait intuitivement, sont tout à fait confirmés. C'est ce qui nous donne envie de continuer.
Voilà. Continuez, parce que il y en a une quarantaine aujourd'hui, oui. Mais il y en aura probablement beaucoup plus.
Il y en a
plus,
déjà 60.
Beaucoup plus demain. Déjà, 60 voilà. Déjà.
Et puis surtout, on veut que ce soit l'ensemble de la société qui devienne plus inclusive. Ça, c'est notre projet que nous mettons en œuvre depuis le début de l'année.
Merci beaucoup, Irène Sipos, d'être venue nous présenter les bistrots mémoire. Si vous aussi, vous imaginez des initiatives qui ont du sens, eh bien, n'hésitez pas, hein, vous avez votre place ici, sur Europe 1, dans la France des solutions, Elisabeth.
Mais oui, et puis rendez-vous, hein, samedi prochain, à 1h moins le quart. Et sur Europe1.fr, vous pouvez faire acte de candidature.
Alors, à samedi.
À samedi.
Avec grand plaisir, Elisabeth et Raphaël. On vous retrouve aussi, bien entendu, en podcast pour réécouter toutes les solutions proposées par la France des solutions. Et c'est sur Europe1.fr et l'application Europe1. Restez avec nous, les infos à suivre.